France Culture.
C'est un article du Figaro paru il y a quelques semaines qui a mis le feu aux poudres. Selon son titre volontairement provocateur, le CNRS, incarnation de la réussite et des échecs de la recherche publique et surtout paradis des sciences molles, coûte cher, trop cher. Émerge ainsi l'idée que tous les domaines de recherche ne se valent pas et ne méritent pas, de fait, leur financement. Les réactions ne se sont pas fait attendre, levée de boucliers chez certains, occasion pour d'autres de ressortir leurs archives de 2015, année où l'on a appris que le Japon comptait fermer 26 facs de sciences humaines et sociales, jugées pas assez utiles. Mais alors qu'est-ce qui constitue au juste l'utilité des chercheurs et des chercheuses? Une recherche utile est-elle celle dont les retombées économiques se mesurent en monnaie sonnante et trébuchante? La question renvoie directement au mécanisme de l'innovation. Le financement public de la recherche se fait-il au nom de la productivité et de la croissance engendrée par les avancées technologiques et industrielles, soit les applications concrètes de la recherche, alors que l'idée d'un retard européen en la matière est désormais bien ancré depuis la publication du rapport de Mario Draghi en septembre dernier, se pose la question du rôle des chercheurs et des chercheuses dans les économies européennes. Ces derniers doivent-ils devenir des entrepreneurs afin de permettre l'innovation? Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 15h pour répondre à toutes ces questions dans cette émission programmée et préparée par Diane Devancet, réalisée par Françoise Le Floch et mise en onde par Olivier Arnay. Et deux invités sont avec nous aujourd'hui. Joël Laillé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, maître de conférence à l'Université d'Orléans et chercheur au Centre Maurice Albach. Vous êtes le co-auteur avec Christian Topaleuf d'un ouvrage intitulé « Gouverner la science, anatomie d'une réforme 2004-2020 ». C'est paru en 2022 aux éditions Agon. Vous êtes aussi l'organisateur d'un séminaire intitulé « Sociologie des réformes universitaires et du gouvernement de la recherche » qui se tient à l'EHESS pendant un certain nombre de semaines et donc en ce moment même aussi. Avec nous également Gilles Garel, bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes professeur titulaire de la chaire de gestion de l'innovation du Conservatoire national des arts et métiers. On vous doit également un ouvrage intitulé « La fabrique de l'innovation », coécrit avec Elmar Mock et paru chez Duno. Gilles Garel, une question qui nous permet de rentrer assez concrètement dans le sujet. Pourquoi le CNAM, grand établissement d'enseignement supérieur et de recherche français, s'est-il doté justement d'une chaire de gestion de l'innovation?
Alors, on pourrait faire l'histoire du Conservatoire national des arts et métiers, qui émerge comme une institution révolutionnaire, hein, portée par la Convention nationale, développée par, introduite par l'abbé Grégoire, comme une institution innovante. À l'époque, il s'agit de rattrapage économique. On parle de perfectionner l'industrie nationale. Et pour ça, le Conservatoire va progressivement à la fois enseigner des pratiques professionnelles et va aussi faire émerger des disciplines et des contenus de plus en plus scientifiques. Donc on peut dire que, historiquement, le CNAM a un rapport à l'innovation et un rapport national. Mais cette question peut aussi nous amener à définir ce qu'est le management de l'innovation, puisque j'ai le grand honneur d'occuper cette chaire depuis 2011. Donc le management de l'innovation, c'est une entrée dans l'innovation par les processus de gestion. Et on peut dire que dans une perspective managériale, l'innovation, c'est une façon nouvelle de créer de la valeur. Mais il faut avoir une acception large de ce terme. Il s'agit, on songera en gestion et en économie d'abord à une valeur financière ou marchande, mais il s'agit de valeur d'usage, de valeur symbolique, de valeur d'image, de valeur sociale. Et donc le management de l'innovation relève de l'ensemble des processus qui permettent à l'innovation, donc à la valeur nouvelle, d'advenir. Il faut bien la faire émerger, il faut la développer, il faut la lancer, il faut la diffuser. Et une fois qu'elle est diffusée, il faut être capable de la renforcer. Et pour tout ça, on a des processus qu'on étudie rigoureusement en gestion innovation. Et mon activité de chercheur me conduit à être plutôt du côté des entreprises qui mettent en œuvre ces processus.
C'est ça, donc vous êtes au sein même d'une grande institution, hein, qui est encore une fois le Conservatoire national des arts et métiers. Donc vous avez donc un pied à la fois dans le monde de la recherche et dans le monde de l'entreprise. Est-ce que vous diriez que cette volonté du CNAM que vous venez d'évoquer de se rapprocher, on va dire aussi, d'une forme de recherche opérationnelle, de recherche qui serait appliquée, on anticipe peut-être un petit peu déjà en termes de vocabulaire, mais d'une recherche qui serait appliquée au monde de l'entreprise, c'est une spécificité du CNAM qui a voulu être pionnier quelque part en la matière, ou est-ce que cela correspond à un mouvement historique plus large? Est-ce que c'était un moment aussi où on se disait, voilà, il faut organiser la recherche de façon à ce qu'elle serve, entre guillemets, le monde de l'entreprise?
L'ambition du CNAM dépassait largement dès sa création le monde de l'entreprise et avait une ambition sociale plus large et une ambition, on dirait aujourd'hui, d'inclusion de toutes les parties prenantes. Je pense que la marque de fabrique du CNAM, c'est pas tant d'enrôler les disciplines existantes que sa capacité à en créer. Je prendrai un exemple historique. Quand Alexandre Millerand, au début du XXe siècle, était ministre, il devait être ministre de l'Industrie, il sollicite le conservatoire pour des conférences publiques sur l'hygiène industrielle, qui s'adressait vraiment aux artisans, aux ouvriers, aux contremaîtres. 1928, le CNAM va créer un cours sur ces thématiques. Il va progressivement monter en compétences. On va plus tard créer une chaire d'hygiène industrielle et de physiologie du travail. C'est-à-dire qu'on commence à faire émerger une science du corps au travail, ce qui n'existait pas. On est aux interstices de la définition des disciplines universitaires. Plus tard, ça donnera l'ergonomie et la psychologie du travail. Et aujourd'hui, ces chaires sont les héritières de ces mouvements qui ont émergé au conservatoire, et on les renouvelle dans un monde qui s'est modernisé, fragmenté, numérisé. Mais on voit bien que le rôle fondamental des chaires du CNAM est de faire émerger des corpus qui sont d'abord liés aux pratiques et qui ont cette possibilité de monter en gamme et de créer des disciplines. Aujourd'hui, on peut créer des chaires sur des champs qui ne correspondent pas aux sections du CNU ou aux disciplines du CNRS.
Joël Laillé, on a évoqué beaucoup de termes de vocabulaire, je le disais, on a cette idée de recherche opérationnelle, de recherche appliquée, on a entendu là des liens très forts entre monde du travail et recherche. Vous êtes vous-même chercheur, évidemment, Joël Laillé. Qu'est-ce qu'un chercheur utile selon vous ?
Alors c'est une bonne question qui est assez provocatrice, mais qui permet de rentrer dans le sujet. Je dirais que un chercheur n'a pas à être utile, et parce que la science n'a pas pour finalité une utilité. Ce qui ne veut pas dire que la science n'est pas utile. Je dirais que la science est essentielle. C'est pas exactement la même chose. C'est-à-dire, ça tout dépend de comment on définit l'utilité. Si on définit l'utilité en termes économiques, par exemple, c'est pas le rôle de la science d'avoir a priori une utilité économique. La science peut avoir une utilité économique, elle en a eu, elle en aura encore, ça en fait partie, mais c'est pas sa finalité. Donc je vous dirais qu'un chercheur n'a pas à être utile, d'une certaine manière, donc c'est impossible de répondre à votre question de ce point de vue-là.
Et pourtant, d'autres l'ont fait, c'est ce que je disais en introduction, il y a eu une distinction très nette, très claire, de fait notamment dans certains médias, puis reprise sur les réseaux sociaux, entre science dure et science molle, l'une étant de fait quasiment fondamentalement et automatiquement utile, l'autre étant qualifiée d'inutile et donc qui ne mériterait pas ces financements. Ce clivage-là, cette distinction-là, elle est assez ancienne tout de même, mais elle dit quelque chose aussi de cette notion d'utilité. On a l'impression que la notion d'utilité évolue toujours un peu dans le même sens, finalement, que c'est cette utilité économique qui prévaut.
Alors, la notion science dure, science molle ne recouvre pas, en fait, vraiment cette question-là, parce que les économistes vont trouver que l'économie est une science utile pour la peine, et pourtant, elle serait plutôt classée du côté des sciences molles, puisque ce serait une science sociale et politique.
Mais aujourd'hui, c'est ainsi. Ouais. En fait, je trouve ça intéressant le fait que ce soit instrumentalisé ainsi, que ce soit pris à ce prisme-là de l'utilité économique.
Qu'on reprenne ces clivages-là. Oui, parce que ce qu'il se passe, c'est depuis maintenant, on observe ça, alors c'est un mouvement qui s'est mis en place depuis la fin des années 90, on pourrait dire. Enfin, c'est toujours difficile de comprendre quand est-ce qu'on commence une histoire. Mais il y a une accélération à partir du début des années 2000 qui vise à imposer une certaine conception légitime de la science en fonction de son utilité économique. Et donc, ça devient l'étalon de mesure à partir duquel on évalue l'activité scientifique.
Et de fait, c'est celle qui ressort aujourd'hui. Gilles Carlet, vous avez commencé à évoquer ce qu'apporte en termes de valeur, finalement, l'innovation, et puis l'innovation aussi portée par la recherche, même si on verra que recherche n'est pas forcément synonyme d'innovation, en tout cas que l'un ne vient pas forcément avec l'autre. Selon vous, quelle valeur produit le chercheur? Et là encore, autour de cette question de l'utilité économique, est-ce qu'une recherche qui vaut est une recherche qui a une application et des retombées économiques?
Alors, je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit par Joël Lallier. Il ne peut pas y avoir d'asservissement à une définition exclusivement marchande ou monétaire de la valeur. La question, en fait, je pense qu'elle peut se traiter véritablement en revenant sur l'histoire des relations, de ce que certains appellent les couplages, les liens entre la recherche et l'industrie. Parce qu'en fait, il y a toujours eu des liens, et l'histoire de ces liens montre que ça peut produire des valeurs qui sont plus ou moins symétriques. Le risque majeur étant celui de l'asymétrie, un chercheur qui s'asservirait par exemple strictement à des conditions économiques pour recevoir des financements. Une recherche qualifiée par mes collègues de l'École des Mines à double impact, hein, mes collègues Quentin Plantec, Pascal Lemasson et Benoît Veil, c'est une recherche qui va à la fois avoir des retombées pour l'industrie et des retombées pour la recherche. Mais si vous le souhaitez, on peut revenir sur l'histoire de ces liens, qui est absolument passionnante et qui est au fond assez peu connue, mais qui est au cœur de ce que la gestion de l'innovation étudie.
Alors on va y revenir dans un instant, je voudrais juste faire un dernier point, peut-être là encore de vocabulaire avec vous, Joël Lallier. On entend une expression qui revient assez souvent finalement, cette idée, dès lors que l'on parle notamment du financement de la recherche, parce que c'est ça qui est au cœur de ces enjeux, cette idée qu'il faut valoriser la recherche. On parlait de valeur, donc là on a l'impression qu'il y a un double processus. Peut-être que la recherche produit de la valeur, mais encore faut-il savoir la valoriser. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Est-ce que c'est au chercheur finalement, cet individu qui nous occupe aujourd'hui dans cet homo economicus du lundi d'Entendez-vous l'écho, est-ce que c'est au chercheur de savoir valoriser sa recherche? Est-ce que la valeur produite par la recherche en soi ne suffit plus?
C'est compliqué. Maintenant, les chercheurs sont évalués aussi sur ce qu'on appelle la valorisation, à proprement parler, de la recherche. Et quand on regarde, une des recherches que j'ai pu mener avec Christian Topalov consistait à étudier les CV des scientifiques. Et typiquement, c'est un type maintenant de catégorie qui rentre, où les gens vont, par exemple, déclarer avec en général beaucoup de quelque chose de très positif, les brevets qu'ils déposent, les budgets qu'ils vont réussir à avoir. C'est-à-dire qu'un chercheur est aussi évalué aujourd'hui sur le chiffre d'affaires qu'il est capable de récupérer pour son organisme pour faire des recherches. Alors est-ce que se joue là une forme de valorisation de la recherche? En tout cas, se joue une forme de transformation de la définition légitime de la pratique scientifique.
Mais est-ce, Joël Lallier, est-ce le rôle, est-ce que c'est son rôle et est-ce que c'est dans les cordes du chercheur que de penser immédiatement dès lors qu'il commence, on va dire, une entreprise de recherche, de penser à la façon dont ces recherches vont pouvoir être appliquées ou, on va dire, accaparées par d'autres. Est-ce là bien sa fonction, finalement?
Ah non, c'est totalement stupide. C'est absolument pas la fonction du chercheur de définir ce qui serait une forme d'utilité de ces découvertes. C'est un peu ce que je voulais dire tout à l'heure en disant que la science est pas quelque chose d'utile mais quelque chose d'essentiel, dans le sens où l'augmentation des connaissances, l'amélioration des connaissances est quelque chose de fondamentalement essentiel pour nous. Mais on ne peut pas savoir aujourd'hui les usages qui seront faits des connaissances que l'on découvre. Enfin, plutôt les usages qui seront faits demain des connaissances qu'on découvre aujourd'hui. Il y a une très grande incertitude dans la pratique scientifique, qui est le propre de la pratique scientifique, et qui rend, je dirais peut-être d'une certaine manière, de façon intrinsèque, la pratique scientifique étrangère à une logique économique.
Alors justement, à ce propos-là, je voudrais vous faire écouter la voix du physico-chimiste Didier Roux, qui est titulaire de la chaire d'innovation technologique au Collège de France et qui avait sur le sujet une opinion assez tranchée.
Demander à la recherche fondamentale d'être utile pour servir l'innovation, c'est de mon point de vue un contresens. Non seulement c'est un contresens dans la démarche historique, mais c'est un contresens dans la volonté même d'innover. Et très souvent j'utilise cette phrase, vouloir assujettir la recherche fondamentale à de l'innovation, c'est restreindre le champ des possibles, puisque la recherche fondamentale consiste avant tout à comprendre le monde qui nous entoure dans toute sa généralité, dans toute sa complexité, et sans du tout se donner de limites par rapport à ses objectifs. On est conduit par la curiosité et l'augmentation des connaissances quand on fait de la recherche fondamentale, on n'est pas du tout conduit par l'utilitaire de faire de l'innovation. L'innovation, au contraire, elle est complètement conduite par amener quelque chose sur le marché qui permet d'améliorer et d'avoir un succès commercial et d'améliorer la façon dont nous vivons. Les deux objectifs sont radicalement différents. J'ai fait beaucoup de recherche fondamentale, je connais bien ces mondes-là et je trouve absolument terrible, terrible, de croire qu'en demandant à des chercheurs qui travaillent pour comprendre le monde qui nous entoure à quoi peuvent se servir leurs recherches pour le futur, c'est terrible de penser, de se tromper à ce point sur la richesse de la synergie entre les deux à condition de ne pas les assujettir.
Voilà un extrait de la conversation scientifique d'Étienne Klein, au micro de France Culture bien sûr, c'était en décembre 2020. Étendre le champ des possibles versus amener quelque chose sur le marché pour améliorer la façon dont nous vivons. Ces deux objectifs donc radicalement différents, hein, selon Didier Roux, sont-ils réconciliables selon vous, Gilles Garel?
C'est-à-dire?
Est-ce que quand Didier Roux dit que finalement la recherche fondamentale, on va dire en opposition à la recherche appliquée, ne peut être instrumentalisée pour créer de nouvelles opportunités sur un marché, est-ce que ça, selon vous, ce sont des objectifs qui sont réconciliables? La recherche peut servir à cela, à créer de nouvelles opportunités sur un marché et à améliorer les conditions aussi de ce marché.
En fait, il faut bien voir que derrière la recherche, il y a deux niveaux de questionnement qui sont différents. On peut avoir un niveau de questionnement très exploratoire, ce qui en gestion innovation nous amène à travailler sur des méthodes d'innovation de rupture, par exemple, ou des questions qui sont plus résolutoires, qui sont liées à des objectifs qu'on peut prédéfinir. Si on regarde les organisations et les dispositifs de gestion de l'innovation au regard de ces deux types de questions, on a vraiment un choix, une alternative entre des questions qui peuvent se résoudre avec des méthodologies où on part de l'existant, on améliore, par exemple, on résout des questions qui sont liées à des problèmes identifiés sur le marché pour proposer des produits améliorés, rénovés. Et on aura très marginalement besoin de recherche exploratoire, voire pas du tout, pour ce type de questions. Par contre, la recherche exploratoire, elle n'est pas programmatique, elle n'est pas prédictive d'une application, d'une solution. On pourra aussi revenir sur, si vous le souhaitez, sur ce lien à la programmation, c'est-à-dire à la prédiction. On dit souvent en gestion qu'il faut laisser sa chance au produit. Sur les questions exploratoires, il faut s'accorder la possibilité de la surprise, de la sérendipité.
Avec cette notion de risque très importante qu'on a déjà soulevée. On retrouve là toutes les contradictions aussi de la recherche, de savoir on ne sait pas sur quoi ça va déboucher, ni dans combien de temps. Donc le financement est aussi une prise de risque quelque part. Joël Laillé, on retrouve là une distinction à faire hein, avant de poursuivre cette émission, celle de la recherche appliquée versus la recherche dite fondamentale. Ces deux sphères sont-elles aussi séparées que ce que sous-entend Didier Roux à l'instant? Est-ce que c'est vraiment irréconciliable à ce point? Est-ce que on n'imaginerait pas finalement de la recherche fondamentale se faire au sein d'une entreprise qui a besoin de rentabilité vite et bien, on va dire?
Ouais, non, c'est pas du tout irréconciliable. L'innovation, c'est pas un problème. En fait, réellement. Et la réaction, je pense, de Didier Roux et la raison pour laquelle on se pose ces questions-là aujourd'hui, c'est pas parce qu'il y aurait un conflit entre recherche fondamentale et recherche appliquée. Le problème, c'est que depuis le début des années 2000, ce que je vous expliquais, il y a toute une part des théories économiques, d'ailleurs, et c'est intéressant qu'on en parle ici, théorie de la croissance économique, de la croissance de long terme, qui avait pour volonté d'ouvrir la boîte noire du progrès technique. Et l'idée, c'était de dire, bah en fait, et le problème se pose tout particulièrement pour des industries à croissance lente, comme les pays industrialisés occidentaux aujourd'hui, de dire, bah comment on pourrait faire pour renouer avec la croissance? Et cette théorie, qui est surtout portée en France par un économiste qui s'appelle Philippe Aguillon,
qui a publié du reste avec Eli Cohen en 2004, donc tout début des années 2000, comme vous le disiez, son fameux rapport Éducation et croissance, où il se saisit pleinement de ces questions-là.
Oui, oui, alors ici, il est formidable ce rapport, dans lequel en fait. Il pose les choses de la façon suivante, c'est de dire, bah en fait, l'innovation crée de la croissance de productivité qui crée de la croissance économique. Donc, si on veut de la croissance économique, il faut faire de l'innovation. Deuxième postulat, l'innovation se fait dans les entreprises, Donc c'est dans les entreprises qu'il faut réussir à faire ça. Il le dit dans son rapport, il l'écrit noir sur blanc comme ça. La troisième chose, troisième postulat pour lui, c'est Schumpeter avait raison, la destruction créatrice, c'est vrai. Donc en fait, soit on innove, soit on meurt. Donc si on veut innover, il faut le faire maintenant, sinon on est mort. Et la dernière chose, il me disait, en fait, l'innovation dépend des systèmes de recherche et développement et des systèmes éducatifs, et c'était le propos de son rapport.
Et on pourrait se dire que c'est plutôt positif. Je veux dire, à partir du moment où on met l'accent sur les systèmes éducatifs, on peut se dire que c'est peut-être potentiellement plus de financement pour la recherche et l'éducation.
Ouais. Alors son propos est le suivant, est de dire qu'il faut subventionner la recherche et développement des entreprises. On y reviendra, mais ça a amené à une niche fiscale formidable en France, qui s'appelle le crédit impôt recherche.
On va y revenir.
Deuxième chose pour lui, il faut gouverner les savants pour orienter les recherches vers des débouchés économiques. Il faut mettre en place des financements incitatifs et inégalitaires pour y arriver. Donc voilà, en gros, un peu le triptyque de comment il pense ça. Et en fait, cette pensée-là va infuser très fortement, largement, dans les pouvoirs publics, dans les pouvoirs politiques, pour imposer en fait une définition unique de la science et de l'organisation de la science vers cet objectif-là. Et donc le problème, c'est pas l'innovation contre la recherche fondamentale. Le problème, c'est l'imposition d'une définition restrictive de la science appliquée à l'innovation.
Alors justement, quel est le rôle du savant et du chercheur? Est-ce à lui de porter sur ses épaules finalement l'ensemble de la croissance économique d'un pays? Je vous propose d'écouter ce qu'en disait en 1958 Robert Oppenheimer.
Je crois que le savant doit chercher la vérité. Et s'il en trouve, il doit l'expliquer, il doit enseigner, il doit être sûr que ce qu'il a trouvé est bien compris. Le plus souvent, on le fait en publiant, en écrivant, en parlant. Ce qui est unique pour le savant, c'est qu'il lui faut non seulement chercher la vérité, mais la proclamer. Et aujourd'hui, par le génie de quelques hommes, typiquement très peu d'hommes. Un pays peut contribuer à beaucoup plus que son magnitude, son pouvoir.
Voilà, dans cet extrait donc de 1958, il y a cette figure du scientifique, du savant, qui serait une sorte de génie isolé, ou en tout cas le fait de très peu d'hommes, comme le dit Oppenheimer, et qui n'a de l'importance que s'il peut contribuer à la grandeur de son pays, a fortiori, en tout cas dans le cadre de cette émission, on va dire la grandeur économique. Gilles Garel, cette figure finalement d'Oppenheimer, qu'est-ce qu'elle nous raconte aussi sur la façon dont la recherche a permis aussi des innovations très concrètes?
J'ignorais qu'Oppenheimer... Oppenheimer parlait si bien français, c'est une heureuse découverte. Je pense que, en préalable de toutes nos discussions, et en particulier de cette question, il faut quand même avoir en tête plusieurs choses. Premièrement, le modèle de recherche qu'en entreprise, on a qualifié à partir de la fin du 19e siècle de modèle d'entreprise à R&D, donc plutôt des grandes entreprises, c'est un modèle d'innovation parmi tant d'autres. Vu des entreprises, y compris des seules grandes, il y a plein d'autres manières de faire de l'innovation. Deuxièmement, quand on fait de la recherche, quand on cherche à plutôt engendrer l'innovation par la recherche, il y a plusieurs organisations possibles de la relation entre la science et l'industrie. Et je pense que ça vaudra le coup de revenir sur ces relations-là. Et puis, une troisième chose qu'il faut avoir en tête, et là, je rebondis sur les propos que tenait Joël Lely à propos des travaux de Philippe Aguillon, c'est que la grande majorité des innovations n'a absolument pas besoin de recherche. Moi, je passe le plus clair de mon temps à interagir avec des acteurs innovants, qui ne sont pas d'ailleurs tous des entreprises, des labs d'innovation, des associations, des communautés. Vous prenez les études de l'OCDE qui montrent qu'en Europe, la moitié des innovations technologiques ne résultent pas d'efforts de R&D. Et on peut prendre deux symptômes très simples de ce constat, selon lequel la majorité des innovations n'a pas besoin de recherche. D'abord, il y a des types d'innovations comme ce qu'on appelle le low-tech, les innovations à basse technologie, les innovations de type réparation, maintenance, recyclage, réutilisation, les innovations sociales.
Qui ne sont pas des innovations de rupture, de fait.
Qui peuvent être des innovations de rupture, mais qui ne sont pas des innovations qui nécessitent un travail de recherche. Moi, je travaille en ce moment avec Marie-Catherine Paquet sur les innovations de préservation. On a des champs entiers qui sont portés sur les innovations de sens ou de signification, les innovations sociales, les innovations de modèle d'affaires, ne nécessitent pas de R&D. Et puis, quand on regarde là non plus les types d'innovations, mais les sources, les dispositifs, la manière d'innover. On peut acquérir des technologies. Si on est sur le seul registre des innovations technologiques, on n'est pas obligé de les développer par la recherche. On peut apprendre par les pratiques, on peut imiter, on peut adapter, on peut hybrider. On peut travailler avec ses clients, on peut travailler avec des communautés, on peut travailler avec des utilisateurs. Donc l'innovation réduite à la recherche, c'est une vision absolument dramatique et elle a énormément de conséquences sur les modes de financement. Mais une dernière chose, il faut voir qu'en amont de tout ça, on a d'énormes biais statistiques en économétrie de l'innovation et qu'on a beaucoup de mal à mesurer l'innovation et que donc la statistique qui gouverne en aval les politiques publiques ne prend pas en compte la variété de ceux qui font l'innovation dans le monde des organisations au sens large.
Vous dites que faire de la recherche, on va dire, l'alpha et l'oméga de l'innovation est dramatique. Pourquoi ?
Pardon ?
Pourquoi est-ce dramatique selon vous ?
De
lier à ce point recherche et innovation. Et pourquoi faire de la recherche le tenant et l'aboutissant de l'innovation est dramatique ?
Eh bien parce que j'ai dit dramatique.
Vous avez dit dramatique. Je vous le confirme.
Peut-être que le mot est très fort. En tout cas, ça laisse de côté un nombre incroyablement important, une grande variété de situations d'innovation où les acteurs innovent sans avoir besoin de recourir à la recherche. Néanmoins, historiquement, les grands secteurs du spatial, de l'automobile, de la chimie, de la défense ont été à l'origine des grands modèles public et privé de R&D, et beaucoup d'innovations de rupture sont liées à cet effort.
Et on en revient à l'exemple.
Donc il faut bien voir, faire la part des choses entre les effets radicaux ou en rupture que peuvent produire la recherche, les innovations portées par la recherche, mais aussi le quotidien de tous ceux qui innovent sans mobiliser quoi que ce soit l'activité de recherche. Et on pourrait même préciser que dans tous les propos qu'on tient là, il y a quand même un biais qui oriente la recherche vers la production de connaissances scientifiques ou technologiques. Or, on a une production de connaissances qui relève de la recherche dans tout un tas de domaines, y compris des sciences sociales, des
fameuses
sciences
molles que
vous
exactement.
Évoquez. Hein. Il y a un laboratoire à Dauphine, ou en tout cas la partie du laboratoire DRM de Paris-Dauphine PSL, qui est consacrée aux innovations managériales. Depuis assez longtemps, avec une forte expertise sur ce sujet.
Oui, donc il ne faut pas confondre peut-être les avancées technologiques et puis un ensemble de processus qui peuvent aussi faire avancer les choses. En 2021, en France, il y a tout de même près de 300 000, je crois, 291 000 100 chercheurs qui exercent en entreprise. Alors c'est vrai que 12% seulement parmi ces quasiment 200 000 chercheurs sont titulaires d'un doctorat. Et puis, comme vous le disiez, Gilles Garel, il y a tout de même une distinction à faire en fonction des domaines de recherche. Les activités de R&D menées en entreprise, mobilise le plus de chercheurs sont tout de même les sciences de l'ingénieur, les mathématiques et l'informatique. Donc on voit là tout de même qu'il y a un sacré décalage. Gilles Garel, je voudrais juste aborder cette dimension historique dont vous nous parliez en début d'émission. Tout de même, ce modèle, alors un peu symbolisé par Oppenheimer, la recherche fondamentale qui inspirerait ensuite les entreprises qui se seraient chargées ensuite de leur application et leur mise sur le marché, c'est un modèle qui prévaut dans l'immédiat après Seconde Guerre mondiale et qui a longtemps prévalu également.
Oui, alors effectivement, c'est un modèle qui prévaut parce qu'il y a toujours eu des liens. Dès la création du CNRS dans les années 30, il y avait ce débat, par exemple, entre Henri Le Châtelier, qui était professeur à l'École des Mines, et Jean Perrin. Débat sur faut-il travailler pour les entreprises ou préserver une science pure. Max Planck a le prix Nobel de physique en 1918 suite à une question qui lui est adressée par Siemens sur une recherche originale de l'intensité lumineuse. Shockley, Barden et Brighton vont avoir le prix Nobel de physique en 1956 en tant que chercheurs dans une entreprise privée. Les fameux Bell Labs qui incarnent. Voilà. Et ainsi de suite, on pourrait avoir des exemples beaucoup plus récents, par exemple en France avec Albert Fert en 2007. Donc la question, dès lors que ces liens ont toujours existé, c'est comment on organise le couplage, la relation entre la science et l'industrie. Et là, on a trois grands modèles. Le premier, c'est le modèle linéaire. C'est le rapport Bush, Vannevar Bush, qui est publié pour le président des États-Unis aux États-Unis en 1945, qui va avoir un succès absolument mondial et qui repose sur une idée fondamentale assez simple. D'abord, on va diviser les activités entre la recherche scientifique et le développement. Et on va confier essentiellement à l'acteur public et à des agences publiques cette activité scientifique et développement aux entreprises. Donc dans une, et deux, dans une relation séquentielle. C'est de là que viennent les questions de transfert, d'application de la recherche. Et c'est de là que vient la distinction entre une recherche qui serait appliquée par rapport à une recherche fondamentale. On a des tas de succès. En France, l'un des succès les plus connus, c'est le taxotaire. Mais on a aussi un modèle linéaire qui est aujourd'hui bien à la peine. Hein, quand on lit le rapport de la Cour des comptes de 2018, on voit bien que ce modèle peine. Il y a un deuxième modèle qui est très étudié en gestion innovation, qui est le modèle de la recherche industrielle, c'est-à-dire l'intégration de l'activité de recherche dans les grandes entreprises elles-mêmes.
C'est ça, c'est les entreprises qui internalisent, qui ont leur propre pôle de R&D finalement à l'intérieur de leur structure.
Et il y a eu un âge d'or, on n'a pas eu besoin d'organiser la relation avec le monde public. Hein, il faut voir que, par exemple, au début des années 60, une entreprise fondée par des Français d'ailleurs au départ, comme Dupont de Nemours, publie davantage d'articles scientifiques que le MIT et Caltech dans la revue principale de chimie. J'évoquais les Bell Labs. Les Bell Labs, c'est 14 prix Nobel et des applications extrêmement concrètes dont on bénéficie encore aujourd'hui avec le laser, l'optique, le solaire, les transistors ou la télévision. Alors, on a encore des entreprises qui réussissent sur ce modèle de la recherche industrielle. Je pense que l'une des plus connues dans notre univers, c'est CATL, le leader chinois de la batterie. Une entreprise extrêmement récente, mais aujourd'hui c'est 116 000 salariés, 21 000 chercheurs en R&D. Parce que derrière les questions qu'il faut s'affranchir, qu'il faut traiter, ce sont des questions d'usage, des questions de technologie et aussi des questions scientifiques. Bon, ce modèle, il est quand même rentré en crise, en dépit de quelques réussites comme celles que je viens d'évoquer. Des crises multiples, je ne vais pas revenir dessus, on pourra le faire si vous voulez, mais tout ça est étudié. Les facteurs de la crise du modèle de la grande entreprise. Et la grande entreprise industrielle à recherche en crise va devoir travailler autrement. Et ça amène à un troisième modèle que connaît très bien Joël Lallier, qui est le modèle de la recherche partenariale. Au fond, les entreprises vont se mettre à collaborer de manière extrêmement variée avec tout un environnement qu'elles supposent plus innovant qu'elles-mêmes. Et on a aujourd'hui de très nombreux travaux qui cherchent à renouveler ce modèle partenarial. Hein, on a aussi des bons dispositifs, comme par exemple les chaires industrielles ou les thèses CIFR.
Oui, on voit que les liens, effectivement, sont beaucoup plus resserrés et que cette logique de partenariat a essaimé depuis les années 2000. Selon l'édition 2024 de l'État de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation, qui a été publiée en juin dernier par le ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, les dépenses en recherche et développement sont réalisées à 66% par les entreprises et à 34% par les universités. Il y a quand même un large décalage, Joël Lallier. Est-ce que, sachant ce qu'on vient de dire, qu'il y a tout de même une grande mesure de chercheurs dans un domaine très spécifique qui est quand même beaucoup plus lié aux technologies, à l'industrie, est-ce qu'il n'y a pas un risque de voir des chercheurs orienter leur recherche en fonction des besoins de l'entreprise, parce qu'ils savent que c'est là qu'ils vont avoir soit un emploi, soit un financement, et que de fait, certains domaines soient totalement laissés de côté à partir du moment où ces modalités de partenariat public-privé se développent ?
Alors en France, on a un petit problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'industrie. Comparativement à d'autres pays.
Tout à fait.
Donc en fait, l'emploi scientifique dans les entreprises privées est en fait en France assez faible. Donc le gros employeur, c'est l'employeur public. Et c'est un des problèmes, je vous disais tout à l'heure, il y a plusieurs mots d'ordre réformateurs. Un des mots d'ordre réformateurs qu'on entend souvent à nauseam, c'est les 3% de PIB pour l'enseignement supérieur, pour la recherche.
C'est un objectif fixé par l'Union européenne.
Ouais. Un objectif fixé par l'Union européenne dans le cadre de ce qu'on appelait la stratégie de Lisbonne, avec l'idée de faire de l'Union européenne l'économie de la connaissance. Avec des guillemets. Et dans les 3% de PIB, il y a l'idée que doit y avoir 1% de PIB de recherche publique, 2% de PIB pour la recherche privée. Et à chaque fois, on est en dessous, mais ce que les gens ne saisissent pas toujours, en fait, là où on est en dessous en France, c'est qu'on n'arrive pas vers 2% de recherche et développement, 2% de PIB de dépenses de recherche et développement privé, et pour une simple raison, on n'y arrivera jamais.
C'est le tissu industriel.
C'est qu'en fait, on a pu, effectivement, le tissu industriel qui permettrait un niveau de dépenses de cet ordre-là.
Joël Laillé, je suis contente qu'on revienne sur ces fameuses années 2000 et puis cette façon dont des objectifs ont été fixés. Vous citiez les 3% qui sont en fait une traduction de cette théorisation des liens entre croissance, productivité, innovation et recherche. Finalement, c'est une mise en application à travers des objectifs chiffrés. Joël Laillé, est-ce que c'est aussi à partir de ce moment-là, des années 2000, que certes on cherche à renforcer peut-être des modalités de financement et puis des liens entre entreprises et recherche, mais aussi qu'on incite le chercheur ou la chercheuse à devenir entrepreneur aussi quelque part. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'on incite le chercheur à se tourner vers l'entrepreneuriat comme voie de débouché assez naturelle?
En fait, dès les années 90, on a un peu oublié, mais c'était la grande époque des biotechnologies. Et Gilles Garrel doit bien savoir ça aussi. Et c'est le moment où, en fait, tous les chercheurs qui étaient en biologie santé étaient appelés à devoir monter des start-up. Et il y a eu des success stories sur le vaccin de l'hépatite, je sais plus. Enfin bref, il y a eu plusieurs succès comme ça. Enfin en tout cas, voilà, c'était l'idée. Donc ça a commencé en fait, je vous dirais, dans les années 90. Ce qui a changé radicalement dans ces années-là, ça va être aussi une transformation des modes de pilotage politique. Par exemple, juste un exemple, le ministère était organisé jusqu'en 2005 en trois directions. Une direction de la technologie, qui est tenue par des ingénieurs de grands corps d'État, en toute logique, en général proche de l'industrie de l'armement, parce que c'est une industrie qui est très importante chez les grands corps, mais pas seulement. Une direction de la recherche, qui était plutôt dirigée par des chercheurs du CNRS, en gros, et puis une direction de l'enseignement supérieur qui était dirigée par des universitaires. Okay. Et ce qui se passe en 2005, c'est qu'il y a une fusion de la direction de la technologie et de la direction de la recherche. Et en fait, c'est la direction de la technologie qui prend le pouvoir sur ce qui va s'appeler la direction générale de la recherche et de l'innovation. Alors pourquoi je dis que c'est la direction de la technologie qui prend le pouvoir? Parce qu'en fait, les profils des gens qui vont prendre la nouvelle direction qui pilote la politique scientifique en France sont des profils d'ingénieurs proches de la recherche et développement et qui font carrière dans le transfert de technologies, dans les partenariats publics-privés, dans les politiques d'innovation et qui ont un pied dans les ministères et un pied dans ce type de laboratoire ou ce type de recherche.
Et de fait, il y a tout un écosystème qui se modifie, qui se développe aussi à ce moment-là, Joël Laillé. En fait, on se rend compte, puisqu'on a bien compris que le problème, c'était pas tant que la recherche soit séparée de l'innovation, mais plutôt organiser l'espace qui permettrait le passage de l'un à l'autre, et donc cet écosystème, il y a tout plein d'organisations qui sont modifiées. Vous citiez le CNRS, on pourrait aussi dire l'INSERM ou le CEA. Dans les années 80, on instaure les centres régionaux d'innovation et de transfert de technologies, les CRIT avec deux T qui apparaissent, et dont la mission est justement de faciliter les relations entre la recherche publique et les petites et moyennes entreprises. Le gouvernement Villepin aussi avait lancé des pôles de compétitivité qui réunissaient entreprises, universités et centres de recherche, ainsi que des dispositifs mutualisés de transfert de technologies. Tout cela, Joël Laillé, qui le pousse en fait? Est-ce que c'est l'État venu du haut ou est-ce que c'est le monde de l'entreprise aussi qui, on va dire, manifeste sa volonté de se rapprocher de la recherche?
Oui, alors c'est peut-être par rapport à ce qu'expliquait justement Gilles Garrel, c'est quelque chose qui est assez nouveau, c'est que l'idée c'est que ça devient un objectif de politique publique. C'est à la politique publique de stimuler, de financer, d'équiper tout un tissu qui va se développer et qui est extrêmement complexe, d'aide d'une manière ou d'une autre, à l'innovation et aux relations entre la recherche qui se fait plutôt dans les laboratoires publics et les développements industriels dans les industries. Donc on va changer effectivement les personnes et puis on va mettre en place toute une série de financements. Mais encore une fois, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, ce qu'on observe, c'est une forme de délégitimation d'une certaine conception de la recherche qui était dominante jusque-là.
C'est-à-dire la recherche pour soi,
Recherche pour la recherche, d'une certaine manière, pour l'amélioration des connaissances, qui était ce qu'a fait d'ailleurs la grandeur du CNRS pendant des années, et le succès du CNRS. Et donc, qui se retrouve délégitimé au profit d'une autre. Mais ça donne vraiment au profit d'une recherche très appliquée, innovation. Je vous donne juste un exemple, parce qu'en fait, il faut qu'on... par exemple, en février de l'année dernière, il y a une pétition qui a été lancé par des chercheurs de l'INRIA. Alors l'INRIA, c'est hyper intéressant comme organisme. Et pour notre sujet, on est vraiment au cœur avec l'INRIA. L'INRIA, c'est l'Institut National de Recherche en Informatique et Automatique. Donc c'est et qui dépend à la fois du ministère de l'Enseignement supérieur et du ministère de l'Industrie, si je ne me trompe pas. Mais en tout cas, c'est un organisme qui, vraiment, par les questions qui sont les siennes, se retrouve très lié à l'industrie, que ce soit informatique, etc. Et cette pétition des chercheurs de l'INRIA, elle est pour dire quoi, en fait? Elle est pour dire que, en fait, le président, c'est au moment du changement de ou renouvellement, en l'occurrence, c'était le renouvellement de la présidence de l'INRIA, et où les chercheurs de l'établissement trouvaient que, en fait, la politique de l'organisme était trop en faveur du fait de monter des start-up à tout prix, au détriment d'une recherche qui était nécessaire, qui était fondamentale, et je cite ce qu'il y a dans la pétition, la direction de notre institut s'est avérée incapable de soutenir des thématiques de recherche importantes, ce qu'il note, et au contraire, il note que le PDG affichait un objectif initial démesuré de 100 projets de start-up INRIA par an. Donc on voit, en fait, c'est très concret ce qui se passe. Voilà.
Mais on voit aussi qu'on est dans une forme de cercle vicieux, ou en tout cas que le serpent se mord un peu la queue, dans le sens où vous avez parlé de ces processus d'évaluation aussi qui concernent les chercheurs. Dans un entretien donné en 2022 par Antoine Petit, qui était le président du CNRS à l'époque, il le disait très clairement, parce que ça faisait partie de l'attractivité du CNRS que d'avoir créé une centaine de start-up en un temps assez réduit. Ça fait partie aussi, on va dire, des arguments des universités et des établissements de recherche pour continuer à recevoir des financements et à justifier de son efficacité.
Oui, c'est un problème.
Oui, je suis bien d'accord que c'est un problème, mais j'aimerais bien quand même souligner un des apports de la gestion de l'innovation du côté des entreprises privées. Quand on parle d'innovation de rupture, on se met à distance des clients. On fixe pas d'objectif. On dit pas qu'on va créer des start-up ou engendrer tel type d'innovation. On ne le dit pas ex ante, on ne le dit pas au départ. On a des méthodes qui permettent de coordonner des nombreux acteurs, de cadrer ce qu'on appelle des champs, des grands domaines d'exploration. Vous voyez, c'est pas la même chose de dire « je vais mettre des moyens pour travailler sur les véhicules verts » que de dire « je fais la Prius ». D'ailleurs, la Prius, c'est le nom qu'a donné à la fin d'un long programme exploratoire Toyota à l'un des outputs du temps libre qu'il avait laissé à ses chercheurs. Et ensuite, il a dû attendre 30 ans pour que le véhicule soit rentable. C'est pas la même chose de dire je vais faire un masque de plongée avec telle et telle caractéristique chez Decathlon, ou de dire à mes chercheurs et mes équipes, vous allez travailler sur le confort dans l'eau. Et il sortira une centaine d'idées, dont la plupart vont être abandonnées, dont certaines vont être mises de côté pour être peut-être plus tard réutilisées. Voilà. Steve Jobs a jamais demandé à ses équipes chez Apple de faire l'iPhone. Hein. Par contre, pour le peu qu'on en sait, les formes d'organisation interne permettaient de travailler sur des programmes larges. Et, par exemple, si vous dites une interface homme-machine magique, vous ouvrez un espace de collaboration et d'exploration. Et donc, je pense qu'il faut avoir ceci en perspective. Ça renvoie à ce que j'ai dit tout à l'heure sur les questions résolutoires ou exploratoires. Si on veut fermer l'innovation, d'abord à la seule relation à la recherche scientifique, et deux, à des objectifs qu'on est capable de définir ex ante, ben on n'innove pas.
Ce qui est intéressant, Gilles Garrel, dans ce que vous dites, c'est qu'on retrouve un peu une notion de projet qui est très importante. Vous le dites, une fois qu'on s'est fixé un objectif en fonction d'une solution à trouver, les choses s'organisent peut-être mieux, ou en tout cas pour 100 idées, peut-être que 80 vont être mises à la poubelle, mais en tout cas on aura cherché à améliorer la situation. Par effet de contraste, on pourrait se dire que dès lors qu'on se fixe un projet précis, les choses seront plus efficaces. Or, cette gestion par projet, elle a infusé aussi. C'est une idée qui a infusé au sein de l'enseignement supérieur et de la recherche. En 2005, est mise en place l'ANR, l'Agence nationale de recherche, qui justement fait de ce principe de la recherche par projet l'alpha et l'oméga aussi de la gestion de la recherche. Quelles conséquences cela a-t-il eu sur l'organisation de la recherche et plus précisément sur les chercheurs, Joël Laye?
Oui, alors en fait, c'est un des éléments fondamentaux dans la politique de pilotage des pratiques scientifiques qui a été mise en place avec la réforme. On est passé, pour le dire rapidement, à un système avec une reconduction de crédits d'une année sur l'autre qui permettait aux chercheurs de pouvoir s'appuyer sur des investissements de moyen long terme pour développer leurs projets de recherche, à un financement sur un temps très court. Quand je dis très court, c'est en gros des financements sur 2-4 ans, ce qui correspond pas au temps de la recherche. Je discutais récemment avec un chercheur de Pasteur qui m'expliquait que 90% de son budget relevait en fait de financement de très court terme pour son fonctionnement. Alors maintenant, l'appel à projet, c'est l'objectif de l'appel à projet, c'est de pouvoir dire aussi aux chercheurs ce sur quoi ils doivent travailler et comment ils doivent travailler.
Je vous ai amené
une évaluation qui a été faite d'un projet sur les algues dans les piscines des centrales nucléaires. Et le projet est soumis à l'ANR et en avis général, en commentaire du dépôt de projet. Je vous le fais pas en anglais, je vous le fais en français.
Merci.
Il est écrit ceci, que les activités de recherche proposées sont très loin d'une recherche appliquée qui peut être intégrée immédiatement à l'industrie après l'obtention des résultats, et que le projet manque d'idées novatrices pour la commercialisation. Et il note aussi que des recherches similaires menées par le passé n'ont jamais permis un lancement commercial. Et là, on parle d'un appel à projet qui est un appel à projet sur des recherches fondamentales. C'est-à-dire, pour que vous compreniez, en fait, que derrière ces appels à projet, on pourrait penser, on dit oui, mais c'est de l'évaluation par les pairs, etc., etc. Mais en réalité, il s'agit d'expliquer aux gens ce sur quoi ils doivent travailler, comment ils doivent travailler aussi. Pour donner un autre exemple, qui est un exemple qui est très parlant et qui est assez connu. C'est l'exemple de Bruno Canard, qui est un chercheur qui travaillait sur les coronavirus. Bruno Canard, et alors c'est le cas de tous, il faut comprendre ça aussi, c'est le cas des chercheurs dans les organismes. Ils sont recrutés, après un concours en général qui est très difficile, puis une fois qu'ils sont recrutés, on leur donne pas les moyens de travailler. Il faut qu'ils réussissent à trouver un projet pour aller. Bon, Bruno Canard, il dépose un projet en 2016 pour travailler sur les coronavirus, il se fait retoquer. Il repose en 2017, il se fait retoquer. Il repose en 2018, il se fait retoquer. Il repose en 2019, il se fait retoquer. D'accord? Ça veut dire que pendant toutes ces années-là, il peut pas travailler. Hein. Il a pas de budget, il a pas d'argent, il ne peut pas travailler.
Et puis c'est l'énergie passée aussi à remonter ses projets.
Alors 2020, comme par miracle, il redépose. Hein. Il redépose le même, hein, je pense. Hein. Vraiment. Et là, ça a marché. Et en fait, ça nous montre bien aussi la façon dont ces appels à projets ne permettent pas en réalité de piloter la recherche. Et ça détruit en fait la possibilité de faire des recherches.
Alors justement, vous parliez de Bruno Canard. Je voudrais vous faire entendre cet extrait d'une de ses interviews. C'était en décembre 2020 justement.
On a un virus, il a une espèce de carrosserie qui est visible, reconnue. Et ensuite, à l'intérieur du virus, il y a un moteur qui permet au virus de se répliquer, de fabriquer des composants, d'échapper au système de la cellule, etc., etc. Ben, c'est ce qu'on fait. On regarde, on ouvre le virus, on regarde à l'intérieur quelle est la machinerie qu'il a et comment elle lui permet de se répliquer et de se défendre aussi par rapport aux agressions. Est-ce que un vaccin qui est fait aujourd'hui contre le SARS numéro 2 va fonctionner dans un an, dans deux ans, ou s'il y a un autre SARS numéro 3 qui arrive, quelle est la probabilité que le vaccin fonctionne, quel est son taux de protection, tout ça c'est des inconnus. Si on a un médicament qui est actif contre le SARS numéro 1, il sera actif contre le SARS numéro 2, contre le SARS numéro 3, parce que cette machinerie est extrêmement conservée, il n'y aura pas de variation. Là où on est en manque, c'est en manque de production de nouvelles molécules actives par cette action de la recherche fondamentale. C'est une recherche au long cours, on n'en voit pas forcément les effets tout de suite, mais si on la néglige, y a pas de molécules qui vont pouvoir entrer en essai clinique.
France Culture.
Alors, voilà. Je vais lâcher le cabinet, dès que j'aurai passé ma thèse. Ouais. Oui, je veux travailler à plein temps au laboratoire, je veux faire de la recherche. Et ne faire que ça.
C'est formidable.
Entendez-vous l'écho?
Tu sais ce que ça veut dire? Faire des trous dans les molaires des gens, ça rapporte 4 fois plus d'argent que d'étudier sur des souris. Bon, pourquoi les gens ont des trous dans les molaires.
Aliatovine.
Voilà, on entendait donc le virologue Bruno Canard nous expliquer un peu le déroulé de ses recherches, puis cet extrait de La Boum, évidemment. Gilles Garel, finalement, qu'est-ce que cet épisode de la lutte contre le Covid-19, en période de crise sanitaire, évidemment, qu'est-ce que cet épisode a mis en lumière sur l'organisation de la recherche en France? Emmanuel Macron, je crois, l'avait qualifié à l'époque d'étrange défaite. De quoi s'est-on rendu compte à ce moment-là?
Je pense que le principal enseignement qu'on peut en tirer, c'est le rapport au temps. Le rapport au temps long et la contradiction entre ce dont on est en train de discuter, un pilotage court-termiste par projet. Bon, alors, on pourrait aussi avoir des projets de très long terme, hein, y a des travaux là-dessus, mais là on est dans une vision extrêmement banale et court-termiste du projet. Et donc on se prive du temps long. La crise du Covid nous a aussi montré comment des entreprises privées très largement subventionnées et engagés avec les acteurs publics mondialement dans des collaborations incroyables, ont bénéficié de travaux de recherche extrêmement anciens. On a trop peu rappelé en France que le prix Nobel de François Jacob, d'André Lvoff et Jacques Monod sur l'ARN messager, qui n'avait pas de vertu applicative et à la base de l'enrichissement de Pfizer et de Bourla, son dirigeant. Hein. Et je rappellerai aussi que l'iPhone, qui a été étudié par la chercheuse italienne Mariana Mazzucato, pour l'ensemble des technologies qui sont à l'intérieur, bénéficient de travaux qui sont tous exclusivement publics, à commencer par les grandes agences publiques américaines. C'est-à-dire que la base de la connaissance qui est à l'origine des technologies, assemblée dans un produit qui est maintenant mondialement connu, est publique. Donc ce rapport au temps long, il est indispensable pour préserver la surprise, pour préserver le coup d'après qu'on n'est pas capable de prédire, d'organiser.
Joël Laillé, vous souhaitiez réagir?
Oui, parce que Gilles Garel vient de soulever aussi quelque chose qui est très fondamentalement important et qui va à contre-pied par rapport aux nouvelles politiques. C'est l'idée que la science, mais ça marche aussi pour l'innovation, hein, c'est une pratique collective, c'est pas une pratique individuelle. Ouais. Et en fait, les prix Nobel, ce sont des fictions qui sont extrêmement dommageables, parce qu'ils font croire qu'en réalité, la science est l'activité de quelques génies qui seraient excellents. En général, c'est aussi l'occasion de passer sous silence certains travaux, et d'ailleurs souvent plutôt les travaux des femmes d'ailleurs, qui sont invisibilisés par les prix Nobel, mais pas seulement. Et en réalité, derrière un prix Nobel, ce que dit Philippe Garrel, il a raison. C'est-à-dire que en fait, il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui travaillent, il y a toute une série d'échanges. Et le problème, c'est que dans la logique incitative qui est mise en place pour orienter les comportements des savants, il y a l'idée qu'il faut concentrer les recherches sur certains qui seraient excellents et pas sur d'autres. Et en fait, ça détruit totalement le tissu et la capacité d'un écosystème de recherche de fonctionner. Parce que la recherche, c'est pas l'affaire de quelques stars. Ça fonctionne pas comme ça.
D'aucuns ont dit, je cite encore une fois cet entretien du président du CNRS dans Le Monde en 2022, donc on dit qu'il fallait assumer cette compétitivité forcenée et que en fait c'est comme ça que la recherche avançait, que c'est parce qu'on privilégiait les meilleurs, les plus forts, les plus rapides, qu'on arrivait à une forme d'excellence.
Je ne sais pas sur quoi s'appuie Antoine Petit quand il dit ce genre de choses-là, mais oui, il l'a dit. Il a dit beaucoup de bêtises. Il a dit aussi qu'il fallait que ce soit une réforme darwinienne, comme s'il y aurait une sélection naturelle des chercheurs. Encore une fois, c'est fondamentalement stupide. Mais le problème, c'est surtout que, en fait, mais je comprends pourquoi il le dit. C'est parce qu'en fait, s'impose une certaine définition de la pratique scientifique qui dit que ça fonctionne comme ça.
Et une forme de sélection via les financements de plus en plus.
Et une forme de sélection avec les financements, ce qui fait que même dans les laboratoires, ceux qui réussissent à avoir des financements vont être vus comme des stars parce qu'ils ramènent de l'argent, ceux qui vont galérer pour des raisons qui n'ont rien à voir, en fait, simplement parce que leurs recherches ne sont pas considérées à ce moment-là. Prenons le cas de Bruno Canard. Bruno Canard était sans doute considéré comme un canard boiteux dans son laboratoire parce qu'il ramenait pas de financement, sans doute, j'en sais rien. Mais c'est comme ça que c'est vraiment comme ça que ça fonctionne aujourd'hui dans les laboratoires. C'est-à-dire qu'il y a des chercheurs qui sont mis un peu au banc parce qu'ils n'arrivent pas à ramener suffisamment d'argent.
On en revient à cette idée d'incertitude et de difficulté à avoir la vision de ce à quoi va servir potentiellement une recherche et plus précisément quand elle est fondamentale. Gilles Garel, pardon,
derrière, faut bien voir qu'on a une logique extrêmement claire et rationnelle, qui est celle de la microéconomie standard, qui envisage les relations sociales comme des rapports d'incitation, et pas comme des rapports de coopération avec des surprises sur le long terme. Vous évoquiez Philippe Aguillon, on en a une figure emblématique et mondialement reconnue sur le sujet. Et donc, il en découle les réformes que Joël Lallier évoque. Et je voudrais ajouter deux petits compléments. Le premier, c'est que moi, je ne suis pas un expert des politiques de recherche, mais ayant démarré ma carrière il y a 30 ans, j'ai assisté à ces bouleversements. Les évaluations se font sur des critères qui sont définis par les tutelles. Et ça, en innovation, c'est pas possible, en fait. C'est pas possible de prédéfinir les critères de la valeur a priori. On a des entités dans les entreprises qui innovent, qui vont travailler concomitamment au développement des innovations, à la définition des critères de valeur. Parce que les mauvais critères de valeur vont détruire des bonnes innovations. Et puis la deuxième chose que je veux ajouter, c'est que les entreprises familiales, dont on n'a pas parlé, mais qui sont très étudiées en gestion innovation, sont des entreprises du long terme, mais ce sont des entreprises qui sont capables de sacrifier des moments difficiles, par exemple en affrontant une crise, avec des logiques de portefeuille pour préserver l'emploi, pour préserver la possibilité d'innover plus tard. Et que donc le capitalisme moderne qui a transformé la propriété du capital a transformé le rapport à l'innovation et à la recherche. Et qu'on a une grande partie de l'explication des questions dont on discute dans ce rapport de propriété des entreprises.
Gilles Garrel, vous soulevez là un paradoxe qui en fait structure toute cette question, celui de savoir si l'innovation est programmable et de fait, est-ce que la recherche l'est également. Or, Joël Lallier, ça semble quand même être plutôt dans l'air du temps. En décembre 2023, Emmanuel Macron, fort justement de l'échec face à la recherche.
De programme.
Exactement. Est-ce possible, est-ce compatible finalement avec une certaine vision de la recherche et son efficacité potentielle?
Alors, c'est compatible avec la vision que portent les réformateurs, encore une fois. Donc en fait, c'est extrêmement cohérent. Le seul problème, c'est que depuis maintenant une vingtaine d'années, on peut faire un constat en fait des transformations qui se sont faites. Et le constat, c'est qu'on est un des seuls pays de l'OCDE qui a 10% par exemple de docteurs en moins en France par rapport aux autres pays. C'est-à-dire qu'il y a un assèchement, les gens ne veulent plus faire de doctorat. Qu'on est dans un pays dans lequel il y a une précarisation phénoménale des personnels de la recherche et que il y a plutôt une forme de destruction en fait de l'écosystème de recherche en France. Et ça vient aussi, je voudrais juste parce que quand on est dans une mission d'économie, que les choses soient aussi dites. Le financement de l'innovation en France passe en grande partie, mais pas uniquement, par le crédit impôt recherche. Le crédit impôt recherche, c'est 8 milliards d'euros. Le budget du CNRS, c'est 4 milliards.
C'est ça, on a dit que la recherche était financée à 66% via les entreprises et 34% les universités, mais dans ces 66%, il y a 29% qui est de l'argent public.
En fait, même l'argent public, en réalité, finance en grande majorité la recherche des entreprises. Et que ce soit aussi par les instituts Carnot, on pourrait en discuter, qui représentent 13% du budget de la MIRES, le budget de la mission interministérielle sur l'enseignement supérieur. 13%, c'est juste pour les instituts Carnot. Donc c'est, en fait, c'est des partenariats publics-privés. En plus de ça, on a 8 milliards qui sont rajoutés via le crédit impôt recherche. C'est-à-dire que... alors, il y a eu un rapport commandé par la Cour des comptes en 2021, je crois.
2021, oui, c'est ça.
Qui montrait qu'en fait, parce qu'ils sont super embêtés avec ce crédit impôt recherche, c'est-à-dire que la Cour des comptes somme un petit peu quand même le politique de dire ouais, quand même ça coûte vachement cher, est-ce que ça sert à quelque chose? Alors il y a eu des économistes qui ont essayé de dire ouais, on va faire des modèles, oui ça marche, bon, mais la Cour des comptes était quand même pas totalement convaincue, et donc ils ont fini par faire un rapport où ils montrent qu'en fait
l'effet multiplicateur est très faible.
Il semble que ça marche peut-être un peu pour les petites entreprises, ça marche pas pour les grandes, c'est ce qui montre, et qu'on aura un effet multiplicateur en moyenne de 1.
Oui,
ce qui veut dire qu'en fait, il n'y a pas d'effet multiplicateur. C'est-à-dire qu'en fait, l'argent public finance l'effort de recherche et développement privé. C'est ça que ça veut dire, via le crédit impôt recherche. Donc il n'y a aucune efficacité.
Et donc c'est l'État qui prend peut-être sa part de risque dans cette aventure très risquée, on l'a dit, qu'est l'innovation et potentiellement la recherche. Merci infiniment à tous les deux, Joël Lallier et Gilles Garrel, d'avoir participé à cette émission.